Nous aurons maintenant la lecture du texte qui servira pour la prédication.
Alors le texte dans Jean 1, versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples quand il vit Jésus qui passait. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples de Jean entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous ?» Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot signifie « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu porteras le nom de Céphas. » Ce nom signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus décida de partir pour la région de Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la localité où vivaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël venir à lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda, « Comment me connais-tu ? » Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Tu crois seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il dit encore, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. »
Bonjour à chacun. C'est en effet une joie et un privilège quand même de nous retrouver chaque dimanche dans une église où on peut rendre à Dieu notre culte dans la paix, dans la tranquillité. Vraiment, on doit être reconnaissant pour cette grâce. Merci aussi à Michel et à Azab pour la lecture, pour la présentation de ce culte. Merci aussi aux musiciens qui nous accompagnent chaque dimanche. J'aimerais que nous fassions un bout de chemin avec Nathanaël ce matin. Alors j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a un Nathanaël dans l'église ce matin? Il n'y a pas de Nathanaël. Pourtant, je suis certain que nous sommes tous des Nathanaël. Qu'est-ce que Nathanaël veut dire? Quelle est la traduction de Nathanaël? Pardon? Quelqu'un qui connaît? C'est Dieu a donné, ou don de Dieu, ou Dieu donne. Et en somme, nous sommes tous des Nathanaël. Quand une mère reçoit son enfant, quand le médecin ou la sage-femme amène le bébé qui vient de naître, le pose sur le sein de sa mère, je crois que la mère ou le père ensemble, ils n'ont qu'un souhait, c'est de dire merci à Dieu pour ce don. Donc nos enfants sont des dons de Dieu. Et nous avons été donnés à nos parents aussi. Et je suis sûr que nos parents nous ont accueillis comme étant un don de la part de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants envers nos parents qui nous ont conduits sur le chemin de l'éternité. Nous allons donc faire un bout de chemin avec Nathanaël, mais avant, nous voulons encore prier. Seigneur, nous te bénissons parce que dans ta grâce, tu nous laisses ta parole. Et par cette parole, tu veux nous conduire. Merci Seigneur parce que dans ta grâce, tu nous as donné à nos parents. Merci pour le chemin que nous avons pu parcourir avec nos parents, qui nous ont conduits sur le chemin de l'éternité. Merci pour nos enfants et Seigneur, donne-nous la sagesse aussi de les conduire sur ce chemin de l'éternité. Amen. Nous sommes tout au début du ministère messianique de Jésus, suite à son baptême dans le Jourdain. Nous ne connaissons presque rien de la jeunesse de Jésus, si ce n'est son escapade à l'âge de 12 ans, lors de la fête de la Pâque juive à Jérusalem. Ses parents sont montés à Jérusalem, Joseph et Marie, pour la fête de la Pâque. Et maintenant, depuis 3 jours, ils sont en route, ils retournent vers la Galilée, et ils s'aperçoivent tout à coup que Jésus n'est plus avec eux. Et à leur grande surprise, en remontant à Jérusalem, ils trouvent Jésus dans le temple, s'entretenant avec les pharisiens et avec les docteurs de la loi. Ça doit avoir été une grande surprise pour Joseph et Marie. 3 jours de grande inquiétude, puis à l'étonnement donc de ses parents, ils le trouvent dans le temple. Et on peut s'imaginer ce que devaient penser ses parents, mais quelle est donc la destinée de notre fils? Sans doute aussi l'occasion pour Marie de se souvenir des paroles prononcées par l'ange Gabriel quelques années plus tôt. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David. Mais maintenant, le temps de son ministère est venu. Pendant 3 ans va se dérouler la vie publique et sociale de Jésus. Ce sera pour Jésus l'occasion de beaucoup de rencontres, des rencontres avec toutes sortes de gens. Et tout au long des évangiles, nous voyons ces diverses rencontres que Jésus a faites avec ses contemporains, avec ceux qui avaient vraiment ce besoin de rencontrer Jésus. Ces rencontres, elles vont de Nicodème à la femme samaritaine au bord du puits, ou de l'officier romain dont le fils est malade, jusqu'à l'aveugle Bartimée, de la femme adultère au jeune homme riche, de la résurrection de Lazare à la résurrection du fils de la veuve de Naïn, et l'on pourrait encore mentionner toutes les guérisons accomplies par Jésus durant son ministère sur la terre. Pour nous, parfois, on pourrait peut-être être frustré, se sentir frustré de ne pas avoir été au bénéfice de ces rencontres avec Jésus. Dans nos moments difficiles, qui n'aurait pas souhaité sentir la main de Jésus se poser sur notre épaule, ou simplement cette possibilité de croiser Jésus sur notre route. Pourtant, je suis certain que nous pouvons tous nous identifier à l'une ou l'autre des rencontres de Jésus, nous identifier à telle ou telle personne rencontrée par Jésus. Car ces diverses rencontres de Jésus sont là pour nous révéler ce que nous sommes par nature, mais aussi et surtout pour nous montrer l'amour de Christ pour chaque être humain et pour chacun de nous. Nous qui avons tous besoin d'un sauveur plein de compassion, comme nous le voyons, soit avec le jeune homme riche, ou avec l'aveugle Bartimée, ou encore avec la femme cananéenne qui, elle, se contente des miettes tombées de la table. Les rencontres de Jésus ne sont jamais dues au hasard. Jésus connaissait les besoins des gens qu'il rencontrait. Et aujourd'hui, il en est de même. Jésus désire rencontrer chacun de nous personnellement parce qu'il connaît nos besoins, il connaît nos circonstances personnelles. Alors, à nous d'être disponibles pour le laisser nous rejoindre, là où nous sommes. Jésus nous connaît comme il connaissait parfaitement Nathanaël. Ce premier chapitre de l'évangile de Jean nous rapporte cette merveilleuse révélation faite par Jean-Baptiste alors qu'il rencontre Jésus. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Révélation qui va remplir de joie des milliers d'hommes et de femmes dans le monde. André, qui était un disciple de Jean-Baptiste et futur disciple de Jésus, était là et il a entendu ces paroles. Et il est rempli de joie, plein d'enthousiasme quand il entend ces paroles. Et il se précipite chez son frère Pierre. « Nous avons trouvé le Messie !» C'est vraiment une nouvelle exaltante pour n'importe quel juif pieux. Enfin la venue du Messie, le Messie promis, le fils de David. Pourtant, aujourd'hui, et ça nous étonne parfois, des milliers de juifs dans le monde attendent encore leur Messie. Quand je travaillais encore à la banque, j'ai eu parmi mes clients plusieurs juifs, familles juives, etc. Pas toujours facile avec. Mais je me souviens, j'avais deux sœurs avec leur frère. Ils terminaient leurs études à Genève. Ils avaient perdu leurs parents, ils avaient hérité d'une jolie fortune. Et je me rappelle la dernière fois que j'ai rencontré l'une de ses sœurs, avant qu'il retourne en Israël, on a parlé du Messie. Et elle m'a fait cette déclaration qui m'a beaucoup surpris. Elle m'a dit, nous les Juifs, nous attendons le Messie. Vous les chrétiens, vous attendez le retour de votre Messie Jésus-Christ. Et elle m'a fait cette remarque surprenante, « Mais ça sera peut-être le même. » Et j'ai trouvé extraordinaire qu'elle arrive à cette conclusion. Moi, ça m'a beaucoup réjoui de penser qu'une personnalité juive puisse admettre qu'éventuellement, pour nous c'est une certitude, ça serait le même. Oui, nous voulons nous réjouir. Parce qu'il n'y a qu'un seul Messie, un seul Messie pour les Juifs, un seul Messie pour les chrétiens, c'est le même Messie aussi pour les musulmans. Un jour, ils le reconnaîtront. Le lendemain, c'est Jésus qui rencontre Philippe, selon ce texte. Il est lui aussi de Bethsaïda, la ville d'André et Pierre. Et peut-être que ces deux derniers l'ont-ils informé de leur découverte, la découverte du Messie. En tout cas, à la vue du Messie, Jésus invite Philippe de le suivre, « Toi, suis-moi ». Philippe ne peut retenir sa joie. Il se précipite chez son ami Nathanaël. « Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, celui annoncé par Moïse dans la loi. » Annoncé par les prophètes, Jésus de Nazareth. Mais Nathanaël est sceptique. Il sera pourtant par la suite aussi un des disciples de Jésus. L'enthousiasme de Philippe ne l'a pas convaincu. Quoi, Jésus, le Messie, celui qui vient de Nazareth, le fils du charpentier, serait-il le fils de David, serait-il le Messie? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce qu'en effet, Nazareth avait mauvaise presse en Israël à ce temps-là. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe dit à Nathanaël dit à Philippe, lis les prophètes, et tu verras que de Galilée, il ne vient aucun prophète. Mais Philippe, lui, est un convaincu. Et pas de long discours de Philippe. Il prend le bras de Nathanaël et lui dit, « Viens, viens et vois, tu verras. » Alors que les deux hommes vont à la rencontre de Jésus, si Philippe est en effet plein d'enthousiasme, il n'en est pas de même de Nathanaël. Nathanaël, il doute que le Galiléen puisse être le Messie. Et à la vue du fils du charpentier de Nazareth, on peut comprendre les doutes de Nathanaël. Lui, le fils de David, lui, le fils du charpentier de Nazareth, le Messie. Peut-être Nathanaël ressent-il une certaine déception à la vue de Jésus. Mais, mes amis, rappelez-vous ce qu'a écrit le prophète Ésaïe au sujet du Messie. Au chapitre 53, le verset 2, « Il n'avait ni beauté, ni éclat, rien pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était comme celui dont on détourne le regard. » Comme celui dont on détourne le regard. Et peut-être Nathanaël a-t-il exprimé sa déception à Philippe. Son attente du Messie était tout autre. Quant à Philippe, nullement ébranlé par son ami, je l'imagine volontiers alors qu'il rencontre Jésus, et s'adressant à Jésus, « Jésus, je t'amène un sceptique, je t'amène mon ami Nathanaël, un vrai sceptique plein de doutes. » C'est alors que Jésus s'adresse directement à Nathanaël. Et c'est surprenant. Voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Chers amis, qui parmi nous n'aimerait-il pas entendre un tel accueil de la part de Jésus? Quelque chose comme, voici un membre de l'église de Mérin dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Ça serait merveilleux. Nous reviendrons plus tard sur ces paroles de Jésus. Et à l'écoute d'une telle affirmation, Nathanaël, bien sûr, est stupéfait. « Mais d'où me connais-tu? D'où me connais-tu ? » dit-il à Jésus. « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu, Nathanaël, sous le figuier. » Chers amis, c'est une parole magnifique. Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Nathanaël l'ignorait et il ne pouvait s'imaginer que Jésus le voyait sous le figuier. Car Jésus nous voit. Il nous voit quand nous sommes sous le figuier. Et c'est un formidable encouragement pour chacun de nous. Une merveilleuse révélation, mais aussi une question périlleuse. Combien de temps passons-nous sous le figuier? Que faisait Nathanaël sous le figuier? Une bonne sieste? Une partie de pétanque avec ses copains? Peut-être un pique-nique en famille? Non, certainement pas. Nathanaël connaissait très bien les Écritures. Et il avait un grand besoin au fond du cœur, Nathanaël, une grande soif. Quand donc le Messie allait-il venir? Nathanaël attendait avec foi la réalisation des promesses. Et sous le figuier, il menait un dur combat dans la méditation et la prière. Lui, il attendait la venue du Messie. Aussi, quand Jésus lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », il sait, Nathanaël, il sait que sa prière est exaucée. « Rabbi, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » c'est vraiment la réponse à la victoire de la foi, la victoire de la prière et de la persévérance dans le combat. Ce récit nous rappelle un autre combat, celui d'un vieillard, ça se passe 30 années plus tôt, un vieillard qui se tenait dans le temple de Jérusalem. Et lorsque les parents de Jésus vinrent présenter l'enfant pour accomplir les rites selon la loi, le vieux Siméon prit l'enfant Jésus dans ses bras. Et saisi d'une grande émotion, vraiment d'une grande émotion, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Lui aussi, le vieux Siméon, menait un combat dans la prière. Il attendait la consolation d'Israël. Il en était de même d'une femme veuve, fort avancée en âge, Anne. Elle aussi attendait la consolation d'Israël. Il nous est dit qu'elle ne quittait pas le temple et servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et cette femme, elle avait 84 ans. Quel exemple pour nous! Deux vieillards qui savaient persévérer dans la prière et savaient se tenir sous le figuier. Alors, prenons-nous du temps pour nous tenir sous le figuier. Jésus avait dit « Je t'ai vu sous le figuier ». C'est tout un symbole, sous le figuier. Quel privilège pour nous de savoir que Dieu nous voit quand nous sommes sous le figuier. C'est peut-être l'occasion de rappeler que dans une salle juste en dessous de nous, il y a justement aussi un figuier. Un figuier assez large, qui offre assez de place, où nous pouvons nous retrouver au moins une fois par mois pour la prière. Pour la prière pour l'Église. Et si l'on veut voir grandir l'Église, c'est là qu'il faut mener le combat et demander à Dieu sa bénédiction sur l'Église, sur chaque famille, sur nos enfants. Et que Dieu donne à cette Église, par la puissance du Saint-Esprit, les dons et les charismes dont on a besoin et qui feront grandir notre Église. C'est vrai, c'est un combat. C'est à nous de le mener. En fait, ce n'est pas une option, c'est une condition. On peut faire toutes les campagnes d'évangélisation que l'on voudra, présenter des films ou faire des conférences. Sans la présence du Saint-Esprit, nos efforts seront vains. Or, le Saint-Esprit se manifeste lorsque l'Église persévère dans la prière. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et au chapitre 2, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Un sacré programme, merveilleux programme. J'aimerais revenir sur la déclaration de Jésus. Voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Cette parole peut nous étonner. Au chapitre 3 des Romains, Paul écrit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Comment se fait-il que Jésus déclare Nathanaël sans fraude ou sans péché? Alors, peut-il en être de même pour chacun de nous? Voici Dans Apocalypse 20, verset 12, nous lisons « Des livres furent ouverts. Or, nous savons que nous devons tous comparaître devant le grand trône blanc. Mais pour tous ceux qui ont mis leur confiance et leur espérance dans celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ils pourront s'entendre dire, comme Nathanaël, « Voici vraiment encore un mérinois dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. » J'ai de nous accuser devant Dieu de toutes sortes de péchés. Mais souvenons-nous, chers amis, nous avons auprès du Père, auprès de notre Père, un avocat qui se lèvera pour défendre notre cause. J'ai payé pour lui, j'ai payé pour eux en donnant ma vie sur la croix. Sa dette est effacée. Oui, notre dette est effacée. Et je souhaite et j'espère que nous avons tous choisi le bon avocat. Quant à l'accusateur, l'accusateur qui nous accuse devant Dieu, il ne pourra qu'être confus en attendant son propre jugement. Dans Apocalypse 12, versets 10 et 11, « Il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait jour et nuit, il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. » Oui, notre dette est effacée. Et Jésus nous offre en compensation la vie éternelle et le partage de sa gloire, car nous sommes tous les héritiers du Père, les héritiers du Dieu créateur. Nous sommes cohéritiers avec Jésus, avec son Fils, et c'est un grand privilège pour nous. À nous maintenant, alors que nous allons partager la Sainte Cène, de dire à Dieu notre reconnaissance par des chants et des louanges et par des prières. En cette journée de dimanche, puissions-nous tous prendre ce repas dans la joie et dans la paix et dans la reconnaissance pour le don du Seigneur Jésus sur la croix. Jésus ressuscité, Jésus vivant au siècle des siècles. Amen.